Bonjour à tous et à toutes. On se retrouve aujourd'hui dans un nouvel épisode de votre émission préférée, Les Échos de l'Innovation. Je serai évidemment encore accompagnée de mes très chers collègues
Alice,
Rosalie,
Florian,
Juliette
et Oscar.
Pour commencer cette émission, on va vous lancer une petite vidéo pour vous donner un indice sur le sujet du thème de cette émission.
Oh, c'est tellement stylé! Oh, mais j'y crois pas, on est dans la première fusée grand public!
Et apparemment, c'est du Made in France, hein?
Ouais, à 100%!
Oh. La fusée GV numéro 117 en direction de Lune Pardieu partira avec un retard d'environ 200 000 jours.
Oh.
La Space NCF s'excuse pour la gêne occasionnée.
Ah oui, vraiment Made in France. À 100%, je te dis.
Bon voyage!
Alors, comme vous avez pu le deviner, aujourd'hui, on va parler du tourisme spatial et on va se baser plus précisément sur le tourisme spatial. Est-ce que c'est une nouvelle conquête spatiale ? Donc, pour cette émission, on a eu la chance d'avoir un entretien avec un invité d'exception, Monsieur Jean-François Clairvoy. Je vais lui laisser la parole pour qu'il puisse se présenter.
Bonjour, je suis Jean-François Clairvoy, alias Billy Bob, mon surnom d'astronaute NASA. Astronaute pendant 33 ans, et avec... 3 vols dans l'espace à bord de la navette spatiale américaine en tant que mission specialist professionnel de la NASA. Premier vol pour étudier l'atmosphère, deuxième vol pour ravitailler la station spatiale russe Mir, troisième vol pour réparer le télescope spatial Hubble. C'était une mission de sauvetage, il était en panne totale. Et en parallèle, fondateur des vols R0G qui permettent de recréer les vols en pesanteur lunaire ou martienne. En vrai, donc ça n'est pas une simulation, on recrée la vraie apesanteur dans notre avion. Et à côté de ça, beaucoup d'activités associatives dans plusieurs fondations, associations de promotion de l'exploration spatiale et de la protection de l'environnement. Et puis aussi inventeur, voilà, j'ai inventé une montre professionnelle qui est la montre officielle des astronautes européens dans l'ISS et de beaucoup d'autres astronautes russes et américains.
Alors, pour bien commencer l'émission et pour la mener à bien, on va vous définir ce que c'est que le tourisme spatial. Donc d'abord, Florian et Victor sont allés interviewer des gens dans la rue en leur demandant ce qu'ils pensaient. On va vous partager leurs réponses.
Bah, c'est d'aller faire un tour dans l'espace en payant son petit séjour là-haut. C'est de la bêtise.
Pourquoi ?
Pourquoi ? Parce que qu'est-ce que ça peut apporter ? Un, peut-être la frime. Dire, moi j'y étais, vous n'y étiez pas. Bon, et alors ? Et puis alors, à côté de ça, ça coûte un fric fou. Hein ? Donc, un bon film de là-haut, qu'on regarde devant sa télé ou sur un super grand écran, bah, je trouve que c'est pas plus bête.
J'en ai entendu parler de nom dans des magazines. Bah, le tourisme spatial, c'est pour découvrir l'espace, comme c'est dans le nom. Okay. C'est ceux qui veulent découvrir de nouvelles contrées ou ce qui n'est pas à portée de main.
Il n'y a que quelques rares milliardaires qui actuellement peuvent donc s'envoler avec des navettes et puis revenir sur Terre. Bon, alors je ne pense pas que ce soit un avenir fabuleux, ni à la portée de chaque bourse.
Voilà, donc on a déjà eu des avis plutôt nuancés de personnes dans la rue. Mais maintenant, concrètement, on va avoir l'avis d'un spécialiste qui vit dans ce milieu. Monsieur Jean-François Clairvoy nous a défini pour lui ce qu'était le tourisme spatial.
Donc, de façon générale, c'est l'activité consistant à faire vivre à des non-professionnels de l'espace l'expérience du vol spatial. C'est-à-dire des personnes qui n'auront pas un rôle opérationnel à bord de leur vaisseau, de leur habitat, et qui auront essentiellement à apprendre à vivre, donc manger, dormir, se laver, aller aux toilettes, c'est les quatre activités typiques pour vivre. Les touristes spatiaux n'ont pas besoin de satisfaire des critères médicaux aussi stricts, aussi exigeants que ceux qu'on exige d'astronautes professionnels.
Donc, comme vous l'avez compris, le tourisme spatial, c'est une industrie en plein essor qui vise à offrir des voyages spatiaux pour les particuliers. Et donc, après cette petite mise au point pour se mettre d'accord sur le sujet, on a Juliette. Bonjour Juliette.
Bonjour.
qui va nous présenter sa rubrique, puisqu'elle nous a préparé un petit quiz pour vérifier nos connaissances historiques sur le sujet.
Oui, voilà, exactement, Marie. On va revenir un petit peu en arrière en s'intéressant aux événements marquants d'exploration spatiale. Je ne sais pas si vous le savez, mais donc l'exploration spatiale, elle est boostée par une période historique qui est marquante, puisque c'est la guerre froide, avec les États-Unis et l'URSS qui s'affrontent un petit peu dans tous les domaines, et notamment au niveau spatial, on parle de course à l'espace. Pouvez-vous me citer donc les trois grands événements de la conquête spatiale ? Ils ont tous eu lieu à peu près justement au moment de la guerre froide, pendant la course à l'espace.
Moi, tout de suite, je pense au premier homme qui a marché sur la Lune, Neil Armstrong, en 1969. Voilà, c'est ce qui me vient à l'esprit directement.
Ouais, exactement. Bon, je m'attendais un peu à ça. C'est vrai que c'est un petit peu le moment marquant. Est-ce que vous avez la date exacte ? Tu m'as dit, ouais, 1969, mais...
Mes cours d'histoire remontent quand même loin. Je ne suis pas très bon dans les dates, mais je dirais juillet 1969.
Ouais, exactement. C'est déjà bien.
Je ne sais pas plus.
C'est le 20 juillet 1969. On a effectivement le premier pas sur la Lune.
Moi, je connais Yuri Gagarin aussi. Ouais. C'était le premier vol avec un homme dans l'espace, c'est ça ?
Oui, c'est ça. Le 12 avril 1961. C'était quelle nationalité, du coup ?
Ah, ouais, c'était un soviétique, du
oui,
coup.
Oui, exactement. Et pour finir, du coup, on a cité premier pas sur la Lune, premier homme dans l'espace et...
Moi, j'en ai aucune idée. Ah.
Moi, je pense à Spoutnik. Il me semble que c'est le premier satellite.
Ouais, ouais, c'est ça.
Entré dans l'espace.
Ouais, bien, Marie. C'est le premier vol spatial, en fait, okay, de l'histoire. Et c'est le 4 octobre 1957, satellite soviétique Spoutnik 1. Donc voilà, pour juste la petite anecdote, le premier être vivant qui est allé dans l'espace, c'était pas Armstrong, c'est la chienne russe Laika, je sais pas si vous en avez entendu parler, le 3 novembre 1957, mais malheureusement elle est morte quelques heures après en fait avoir décollé à bord du Sputnik 2.
Ok, ok, merci pour tes infos.
Ensuite, quelle est la nationalité du premier touriste de l'espace ?
Je dirais japonais, mais je ne suis absolument pas sûr.
Alors non, pas du tout. Ah. Et il était russe. C'est Denis Tillo, le 28 avril 2001. À savoir que, juste petite précision, elle nous sera utile tout au long de l'émission. Conventionnellement, en fait, on définit un séjour dans l'espace quand on a dépassé la ligne de Karma, donc de Karman. C'est une ligne qui est en fait située à 100 km d'altitude. Donc, quand on est au-dessus de 100 km d'altitude, on considère que là, on est un vol de l'espace. Mais ça, c'est une convention, en fait, qui est adoptée par la Fédération Aéronautique Internationale. À savoir que c'est encore un petit peu controversé. La limite, elle est pas clairement définie, puisqu'on a notamment l'US Air Force et la NASA qui utilisent généralement une frontière qui est fixée en fait en dessous des 100 km, seulement à 80 km. Voilà. Ensuite, autre petite précision qui va être utile pour la question suivante. Est-ce que vous savez ce que c'est l'ISS ? Ah, alors, qui se lance ?
C'est la Station Spatiale Internationale.
Ouais, exactement. Et est-ce que elle sert à quoi, cette station spatiale ?
Je crois que c'est un ensemble de bâtiments qui forment la station et qui sont régis par différents États, donc l'agence spatiale russe, américaine, ouais. Et on y envoie des astronautes pour qu'ils fassent des recherches scientifiques.
Ouais, c'est ça.
C'est ça.
Est-ce que vous avez des infos ?
C'était pas là que Thomas Pesquet était justement ? Ouais. Non, mais je pense aussi que c'est un laboratoire, non ? Enfin, l'objectif, c'est de faire un maximum d'expériences scientifiques, non ?
Oui, c'est ça. En fait, c'est une station donc, qui est dans l'espace. Elle est en orbite autour de la Terre à une altitude d'environ 400 km. Et elle fait le tour de la Terre en un peu plus de 90 minutes. Et oui, comme tu viens de le dire, Oscar, elle abrite des laboratoires qui permettent de préparer les voyages spatiaux, de tester les effets de l'espace sur la physiologie humaine ou d'éprouver la résistance de nouveaux matériaux. Et vous allez comprendre assez rapidement pourquoi je vous parle de ça. Avec ma question, quel est le premier vol spatial habité opéré par une entreprise privée ?
Alors là, aucune idée vraiment, je sais pas.
Personne ?
Ouais, non, aucune idée.
Alors, c'est le 30 mai 2020, l'entreprise privée SpaceX envoie deux astronautes qui rejoignent l'ISS au moyen de leur fusée Falcon 9 et de leur capsule Crew Dragon.
Voilà. Ok, merci, on savait pas, on en apprend tous les jours.
Bah, j'espère bien. Et c'est pas fini. Il nous reste une petite question. Alors, c'était... Ah bah non, il me semble que en fait j'ai fait le tour. Je suis désolée pour. On peut enchaîner avec la suite.
Ok. Et ben, avant de continuer, on se retrouve avec une petite pause musicale que j'espère que vous allez aimer.
Qu'une philosophie, être accepté comme je suis, malgré tout ce qu'on me dit. Je reste le point levé, pour le meilleur comme le pire. Je suis métisse mais pas martyr, j'avance le cœur léger. Mais toujours le point levé, lever la tête, bomber le torse, sans cesse redoubler d'efforts. La vie ne m'en laisse pas le choix, je suis l'as qui bat le roi. Toutes ces injures incessantes, moi je lèverai le poing. Encore plus haut, encore plus loin. Viser la lune, ça me fait pas peur. Même à l'usure, j'y crois encore et encore. Des sacrifices, s'il le faut j'en ferai. J'en ai déjà fait, mais toujours le poing levé. Je ne suis pas comme toutes ces filles, qu'ont des visages, qu'ont des habits. Moi j'ai des formes et des rondeurs, ça sert à réchauffer les cœurs. Fille d'un quartier populaire, j'ai appris à être fière. Bien plus d'amour que de misère, bien plus de cœur que de pierre. Je n'ai qu'une philosophie, être acceptée comme je suis, avec la force et le sourire. Les poings levés vers l'avenir, lever la tête, lever le torse, sans cesse redoubler d'efforts. La vie ne m'en laisse pas le choix. Je suis l'as qui bat le roi. Viser la lune, ça me fait pas peur. Même à l'usure, j'y crois encore et encore. Des sacrifices, s'il le faut j'en ferai. J'en ai déjà fait, mais toujours le poing levé.
Vous avez reconnu Amel Bent dans sa chanson phare « Ma philosophie ». On est donc de retour dans cette émission et on a une nouvelle rubrique présentée par Alice, Rosalie, Juliette et Oscar. Une rubrique qui, je pense, va intéresser tout le monde puisqu'elle s'intitule « Et notre portefeuille dans tout ça ».
En effet, la plupart des gens ne savent pas vraiment combien ça coûterait un voyage dans l'espace, un voyage comme ça. Donc c'est un truc qui est très dur à être représenté et on s'est dit que ce serait pour être intéressant de commencer par estimer en fait, les différents coûts et des offres qu'il y a sur le marché actuellement.
En effet, moi je propose qu'on commence donc par une étude du marché. Donc par exemple, la firme de Richard Branson qui s'appelle Virgin Galactic, vous en avez peut-être entendu parler, propose des voyages de l'ordre de 250 000 dollars le siège, soit environ 237 000 euros.
Ouais, j'en ai entendu parler quand je vous ai préparé le quiz, parce qu'en fait, Richard Branson, c'est le 11 juillet 2021, c'est la première personne qui a atteint l'espace, selon la norme américaine, en fait, avec un engin qu'il avait développé lui-même. Donc c'était la première fois. Et du coup, ça lui a permis d'avoir une énorme médiatisation. Et je crois, si mes souvenirs sont bons, mais qu'il a vraiment eu énormément de succès là, avec son entreprise, et qu'il y a plein de stars hollywoodiennes, notamment, qui voudraient participer.
Oui, c'est vrai, enfin, ça a eu un succès fou, mais il faut quand même préciser que ce n'est pas vraiment un vol spatial pour la plupart de la communauté aéronautique, puisqu'on est en dessous de la ligne de Kármán, comme tu l'as expliqué. Mmh. Et du coup, seuls l'Union européenne et notamment la NASA ou l'US Force reconnaissent cette frontière des 80 km qu'il a franchi, 86 exactement. Et c'est juste un avion qui vole suffisamment haut pour que les passagers ressentent les effets de la microgravité.
Je crois que c'est les États-Unis que tu voulais dire.
Enfin, c'est les États-Unis. Avec, c'est ça.
C'est aussi le cas avec Blue Origin, du coup c'est la compagnie de Jeff Bezos. Là aussi, on est un peu à la limite de la ligne de Kármán, et à partir de laquelle on considère, du coup, comme tu l'as dit, qu'on est dans l'espace.
Oui, c'est vrai. En fait, c'est pour ça que si on veut vraiment aller dans l'espace, il faut penser beaucoup plus grand. Par exemple, visiter l'ISS. Par exemple, là, le tout premier vol touristique à son bord, dont tu as parlé tout à l'heure, Juliette, c'est celui de Denis Thio, qui coûtait, par exemple, dans les 20 millions de dollars. Et aujourd'hui, ce serait plutôt aux alentours de 25,5 millions d'euros.
Ouais, c'est vrai que là, on cite des chiffres énormes, mais on n'a pas encore parlé de SpaceX, fondé par Elon Musk. Et en fait, la stratégie, elle s'appuie sur le low cost, notamment en construisant des fusées, enfin des engins dont les parties peuvent être utilisées. Et ça, selon eux, ça permet de diminuer les coûts de lancement et donc de faire des grosses économies. Pour parler un peu plus concrètement, la NASA, elle paye 110 millions pour chaque lancement de la fusée Atlas V, alors que SpaceX estime que son dernier modèle, le Falcon 9, coûte 65 millions de dollars en fait pour le lancement. Et donc on est sur une réduction énorme des coûts qui doit forcément impliquer une baisse des prix des tickets.
Après moi j'aimerais bien revenir là sur le terme de low cost. En fait quand tu dis low cost on pourrait s'imaginer un vol Ryanair en quelque sorte mais dans l'espace. Mais déjà actuellement les touristes spatiaux ils vont dans l'espace avec des conditions pas très agréables, c'est pas très confortable un vol un vol spatial. Donc je pense que le terme qui serait peut-être plus juste à mon sens, ça serait des trajets moins coûteux. Parce que le low cost, ça, comment dire, ça l'est déjà dans le sens où c'est pas confortable, les vols spatiaux.
Ok, je comprends ce que tu veux dire.
Ouais, je vois la précision.
Après, là, tu parlais des vols qui existent déjà pour aller dans la station internationale. Ces vols-là, ils sont déjà prévus. Là, et c'est pas vraiment ce que cherche à faire Elon Musk, puisque lui, ce qu'il voudrait organiser, c'est un vol spécial en orbite lunaire. Et là, le prix du ticket serait beaucoup plus élevé que ce qu'on pourrait penser. À ton avis, ça pourrait coûter combien, par exemple ?
J'ai pas les chiffres précis, mais j'imagine que tu nous as dit 25 millions, c'est ça, pour aller sur l'ISS ?
Oui, c'est ça.
Ok, bon, si c'est 25 millions pour aller sur l'ISS, mais que ça, on rajoute en fait le coût d'un vol spécial, mais en même temps, on tient compte du fait que Elon Musk, il fait des économies grâce à son lancement, là, son coût de lancement de fusée, j'imagine peut-être, enfin, je sais pas, j'irais une centaine de millions.
Alors non, en fait, le prix qu'on estime aujourd'hui, ce serait 200 millions d'euros, donc c'est vraiment énorme. Après, là, il faut bien faire attention parce que c'est uniquement des estimations, puisque Elon Musk n'a pas donné ses prix. Mais bon, ça donne déjà une petite idée de ce que ça coûterait, quoi, d'aller.
Et on est d'accord, c'est pour un billet ?
Oui, un billet, oui.
Okay.
Après, il décidera peut-être de casser ses prix, hein, on n'en
sait rien. Et après, on ne tient pas compte, là, dans nos chiffres, du fait que ces voyages, pour le moment, c'est des événements ponctuels, en fait. Peut-être que si on a une industrialisation, entre guillemets, de la chose, et une démocratisation du tourisme spatial, on peut supposer qu'on aurait une nette baisse des prix. Enfin, par exemple, si je prends l'exemple d'un autre mode de transport, entre guillemets, même si on ne peut pas considérer encore les vols spatiaux plutôt comme des modes de transport, mais bon. Si on prend, par exemple, la voiture Renault, je me souviens que, enfin bref, dans le cadre d'une autre... d'un autre cours que j'ai suivi, on avait comparé la Renault 5L de l'époque, qui est en fait l'équivalent de gamme d'une Renault Clio aujourd'hui, et on s'était aperçu que si on tenait compte du salaire moyen à l'époque et du salaire moyen actuel, qu'en fait, en 1981, pour pouvoir s'acheter une voiture comme ça, fallait 6,3 mois de salaire, alors qu'en 2011, il en fallait plus que 4,9. Donc ça, en fait, ça montrait bien qu'en l'espace de 30 ans, quand on avait un secteur qui avait explosé, et donc du coup, une demande qui avait été en hausse, une production qui avait pris énormément d'emploi, ça avait permis de diminuer le coût. Donc peut-être qu'on pourrait se dire que ici aussi, si en fait tout le monde se mettait au tourisme spatial, le coût des billets diminuerait, quoi.
Alors ça, personnellement, moi je suis pas tout à fait d'accord avec toi, parce que pour moi le tourisme spatial, c'est typiquement un produit de luxe que tout le monde ne pourra pas se permettre, et ça limitera la possibilité d'avoir un marché croissant qui va conquérir le monde.
Ouais.
Justement, quand on était en entretien avec l'astronaute Jean-François Clairvoyt, on s'est posé cette question-là et il nous a répondu.
Quand vous entendez dire dans la presse que avec ces touristes qui volent, sous-entendu, des personnes comme nous, lambda de la rue, peuvent voler dans l'espace, Physiquement, psychologiquement, peut-être oui, mais en pratique, non, parce que ces personnes ne sont pas riches, elles ne le seront jamais. Donc, ça restera toujours réservé à un tout petit nombre de touristes des vols spatiaux. Donc, ce sera quelques personnes par an en moyenne, mais on ne va pas aller vers des centaines ou des milliers par an, jamais. L'espace ne sera jamais ouvert au grand public en général, pendant encore des décennies. Ça restera très cher et très risqué. Les touristes, ce sont des personnes forcément très, très riches. Et ça, ce n'est pas parce que c'est du luxe, c'est parce que les lois de la physique font qu'il faut dépenser beaucoup d'énergie et le prix est lié à l'énergie mise en jeu et le coût des infrastructures physiques et humaines et ressources humaines à mettre en place pour contrôler un vol spatial.
Ce que j'aimerais rajouter, c'est ce qui coûte cher dans un vol touristique, c'est la physique. En fait, les sociétés qui proposent des vols spatiaux ne se font pas des millions d'euros en bénéfices. Ce qui est vraiment coûteux, c'est l'énergie que nécessite une fusée pour quitter la Terre. Donc après, je pense que ce serait de la mauvaise foi de dire que dans quelques années, les vols spatiaux seront entièrement démocratisés avec des nouvelles technologies. Mais je pense qu'à ce jour, ça restera pour une certaine élite financière.
Oui, non, c'est vrai qu'en fait, il faut nuancer ce que j'ai dit tout à l'heure, même avec une industrialisation croissante, on pourrait difficilement passer de millions d'euros le billet à des milliers, quoi. Enfin, rendre ça accessible à tout le monde. Et juste pour... il nous parlait du luxe, Monsieur Clairvoy, mais je pense que l'idée de Rosalie, c'était pas tant, en fait, le luxe en tant que tel, mais plus, en fait, que le... En fait, le tourisme spatial, c'était réservé à une classe aisée et du coup, pas du tout abordable par tous, quoi.
Oui, c'est ça. C'est pareil pour l'avion. Enfin, en soi, tout le monde ne peut pas se le permettre non plus.
Ouais. Ouais, mais du coup, là, on souligne un peu un problème du tourisme spatial puisqu'on a des inégalités qui sont engendrées par ce type de tourisme. Enfin, on limite son utilisation à une très faible partie de la population. Déjà qu'on sait que le tourisme n'est pas forcément assez une activité, en fait, un loisir que tout le monde ne peut pas se permettre. Mais alors là, on réduit encore le champ des possibles. On laisse une très, très faible partie de la population qui possède aujourd'hui une très, très grande partie des richesses en disposer. Et moi, je trouve que ça renforce juste le fossé entre la population et c'est dommage, quoi.
Ouais, c'est vrai.
super, merci pour tout ce que vous avez dit. C'était vraiment super intéressant et enrichissant. Et du coup, maintenant, on peut changer de sujet. On va parler d'un nouveau sujet qui est celui du secteur privé et public dans le tourisme lunaire. Et pour cette partie, je vais laisser la parole à Juliette, Rosalie et Oscar à nouveau qui vont nous en parler.
Comme on l'a dit plus tôt, en fait, le tourisme spatial est vraiment en plein essor et ce qui était autrefois le domaine du coup des gouvernements devient de plus en plus un terrain de jeu, on pourrait dire, et un marché pour la big tech et les plus grandes fortunes du monde. Et en fait, contrairement à ce qu'on pourrait croire, la commercialisation de l'espace n'a pas pour seul objectif d'envoyer les super riches en excursion spatiale ou de démocratiser à très long terme une forme de tourisme spatial. Et en fait, elle va surtout transformer ce secteur ô combien dépensier, en industrie autosuffisante et indépendante des gouvernements.
Ouais, c'est exactement cela, en fait. Ce nouveau concept qui se développe, ça s'appelle le New Space. Et en fait, c'est l'émergence d'une industrie spatiale d'initiative privée. Donc, on l'a vu, on l'a cité tout à l'heure quand on faisait nos comparatifs économiques. On a énormément de... Enfin, pas énormément. Je mesure mes mots, mais on a des entreprises privées qui s'y mettent. Et on estime que dans les années à venir, on aura plus de 10 000 startups privées qui se lanceront, alors qu'aujourd'hui, on en a 100. Et même si il semble que le secteur privé l'emporte sur le secteur public, ça reste aussi un business très important pour certaines nations. On a en tête immédiatement les États-Unis, qui sont un peu le leader de l'aéronautique, quoi. Mais c'est le cas aussi de la Chine, en fait, qui estime qu'elle serait en mesure d'effectuer ses premiers vols de tourisme spatiaux d'ici 3 ans. Et elle affirme également qu'elle pourrait disposer des mêmes capacités que le secteur spatial privé américain dans une dizaine d'années. En fait, concrètement, je pense que la Chine, elle a compris que c'est un secteur qui est extrêmement prometteur, qu'il y a de nombreuses opportunités pour les industriels et elle compte bien développer et un peu miser ses jetons là-dessus, quoi.
En fait, moi, quand j'entends parler de secteur privé et public, bah, je me demande qu'en est-il des lois, des législations.
C'est vrai qu'on n'a pas du tout parlé de ça.
Et en fait, j'ai vu qu'au Luxembourg, ils ont adopté une loi sur l'espace en 2017 qui vise à promouvoir l'exploitation commerciale de l'espace et à créer un cadre légal pour les activités spatiales menées dans le pays, tout en veillant à ce que ces activités soient réglementées et sûres, en proposant des incitations fiscales pour encourager les entreprises à investir dans l'espace.
Mais pourquoi le Luxembourg légifère sur l'espace ? Enfin, je veux dire, je sais pas vous, mais moi, je pense pas du tout au Luxembourg lorsqu'on parle de conquête ou d'exploitation spatiale. Là, je m'attendais pas du tout.
C'est vrai, et enfin, moi aussi, ça m'a surpris parce qu'en effet, enfin, le Luxembourg, c'est pas une grosse puissance spatiale comme les États-Unis ou la Chine. Et en fait, donc, j'ai un peu regardé pourquoi le Luxembourg se penchait sur la question, parce que il faut savoir qu'actuellement, il y a très peu de règles, enfin, de lois sur l'espace. La plupart ont été, ont été faites durant la guerre froide et depuis, on n'a pas mis à jour en quelque sorte. Et donc le Luxembourg, bien que ce ne soit pas un paradis fiscal, mais plutôt un havre fiscal, selon Le Monde, accueille plus de 30 entreprises et start-up tournées vers l'espace, comme par exemple Mahana Electric et bien d'autres. Donc ça montre que le Luxembourg saisit une opportunité là pour promouvoir, pour être en quelque sorte les premiers à réglementer et de devenir une base sûre. La législation spatiale.
Ouais, ok. Ouais, parce que oui, c'est vrai qu'en fait, on a de la législation pour la conquête spatiale, mais là, nous, on parle de tourisme spatial, quoi. Et donc, pour le moment, il y a pas grand-chose sur le sujet.
Voilà, pour l'instant, c'est une zone grise.
Ok,
d'accord. Mais enfin, moi, une autre question que je me pose, c'est est-ce que finalement, c'est vraiment une bonne chose de privatiser le tourisme spatial ? Parce que est-ce que ça va pas encore renforcer des inégalités qui étaient déjà présentes dans notre société ? Enfin, par exemple, on a déjà parlé plus tôt de l'avion, tout le monde peut pas le prendre. Et puis, est-ce qu'on a réellement envie de laisser les plus riches continuer de s'enrichir ? Enfin, c'est une question, je pense, une vraie question de société.
Ouais, on peut peut-être se dire que si ça reste majoritairement dans un secteur public, il y aura peut-être plus de transparence sur qui récupère l'argent et où à quoi il est destiné. Mais après, bon, je pense que peut-être tempérer ça parce que je suis pas sûre que ce soit vrai non plus. Mais c'est une question qui se pose, oui, je suis d'accord, Rosalie.
Aussi, je pense, ce qui pose problème avec l'arrivée de nouveaux acteurs dans la nouvelle conquête spatiale, qui est le tourisme spatial, c'est aussi implicitement l'exploitation des ressources. Donc si on se projette dans un futur, les sociétés privées pourront exploiter des ressources dans l'espace. Et je trouve que cela pose question, puisque seulement les entreprises ou les États les plus riches pourront exploiter et s'enrichir grâce aux ressources spatiales.
Ouais, mais après, là, on n'est pas tant dans le tourisme spatial, je pense, que dans la conquête spatiale. Donc, c'est quand même deux choses différentes. Enfin, j'imagine que les touristes, leur but quand ils prennent la navette, c'est pas d'aller chercher des ressources, quoi.
Ouais, alors justement, pour conclure, on a encore posé la question à Jean-François Clairvoy.
Les sociétés privées ont un business. D'abord, au départ, parce que la NASA leur a promis de leur acheter des services, parce que les gens nous parlent souvent, nous posent la question, qu'est-ce que vous pensez de la compétition entre le secteur privé et la NASA, entre SpaceX et la NASA ? Ils ne sont pas en compétition. C'est la NASA qui a fait que SpaceX existe. Si la NASA n'avait pas ouvert son appel d'offres à des services de transport de cargo et d'astronautes professionnels, SpaceX, Elon Musk n'aurait pas créé SpaceX. Il a créé SpaceX parce qu'il voulait capter ce marché qu'il voyait que le gouvernement américain allait ouvrir à des sociétés privées en achetant des services privés. Parce que le fait de savoir que la NASA va vous acheter un service privé, ça veut dire que vous resterez propriétaire de votre infrastructure en étant donc capable de la vendre à des clients privés. Alors que si SpaceX n'existait pas, si la NASA avait continué à être propriétaire de ses fusées, de ses vaisseaux, un privé milliardaire qui veut se payer un vol, son seul interlocuteur pour acheter un vol, c'est le gouvernement.
Voilà, merci encore Jean-François Clairvoy. Et on retrouve maintenant notre rubrique préférée à tous, celle des faits insolites. Yeah. Mais pardon.
En effet, pour le premier fait insolite, on va parler de Alan Shepard. Il a fait partie de la mission Apollo en 1971. Et il s'est posé sur la Lune. Donc dans son livre, Il voulait la Lune, où il raconte son périple, l'astronaute s'attarde sur une anecdote pour le moins étonnante. Il a joué au golf sur la Lune.
Je sais pas vous, moi j'en ai grave entendu parler. Enfin, c'est...
Ah, moi, pas du tout, pour le coup, donc je trouve ça marrant.
Non, mais si, ouais, je trouve ça super drôle. Enfin, c'est alors, dingue comme truc,
vous,
je trouve.
Je vais vous expliquer qu'est-ce qui s'est passé. Alors, il a joué au golf. Donc, déjà, il a essayé d'envoyer une première balle, mais il confie l'avoir ratée. Et il a envoyé cette balle dans un cratère tout proche de lui. Il était gêné par sa combinaison spatiale. Mais la deuxième, en revanche, elle est partie à des kilomètres et des kilomètres grâce à la faible gravité de la Lune. Donc l'astronaute, il a souligné que son souvenir le plus fort, ce n'était pas de voir la Lune, mais de voir la Terre. De l'émotion à l'état pur.
C'est beau, c'est beau.
Et pour notre deuxième petite anecdote, est-ce que vous saviez qu'il y avait un film qui a été tourné entièrement dans l'espace ?
Entièrement, de A à Z ?
C'est ça.
Tu peux nous expliquer un peu comment ça a marché, ce film tourné dans l'espace ? Parce que là, je trouve que c'est assez incroyable de voir ça.
Alors, ça a dû coûter cher. Enfin, pardon, excuse-moi, mais je n'imagine pas le coût du film.
Ça s'est déroulé récemment, donc le 5 octobre 2021. C'est un réalisateur et une actrice russe qui ont décollé en direction de la Station Spatiale Internationale. Pendant 12 jours, ils ont vécu dans l'espace pour pouvoir tourner leur film. Il ne faut pas s'attendre à voir le film le plus esthétique possible parce que les prises de vue de caméra dans la station, c'est très difficile. Et donc l'enjeu justement pour la station russe, l'agence russe, pardon, Roscosmos, c'était aussi financier, parce que l'année dernière, donc en 2021, l'agence, elle a perdu le monopole des vols habités vers l'ISS. Maintenant, elle doit partager le marché avec SpaceX, qui est américain, et donc ça représente un énorme manque à gagner. Donc un siège, c'est entre 20 et 35 millions de dollars, donc effectivement, c'est très cher. Le comble de ce tournage, justement, c'est que dans l'espace, les conditions, elles sont très mauvaises, comme je l'ai déjà dit. Maintenant, il reste bien sûr à savoir si le film il sera plébiscité par le public. Par exemple, s'il va gagner la palme de la meilleure production cinématographique dans l'espace. Et pour cela, rendez-vous dans les salles de cinéma sur Terre en 2022.
Et eh ben juste, on ira. Oh, pardon.
Excuse-moi, Marie, mais juste j'ai une question. Donc Roscosmos, si j'ai bien compris, c'est l'agence qui a permis de les emmener dans l'espace, c'est ça ?
C'est ça, c'est l'agence russe.
Ok, d'accord.
Ça s'oppose à la NASA pour les Américains.
Ok, ok.
Enfin, c'est plutôt l'équivalent de la NASA en Russie.
Bon bah écoutez, on ira tous voir le film à sa sortie. Et maintenant, après cette petite rubrique plus légère, on va se concentrer sur un sujet qui est très controversé, celui de l'écologie dans l'espace. Mais tout d'abord, pause musicale.
Et toi et moi, on était
Voilà, c'était J'ai demandé à la Lune d'Indochine. Je pense que vous avez reconnu. Avant de commencer sur l'aspect écologique, on a encore Jean-François Clairvoy qui nous a donné son avis sur le sujet.
Que lors d'un vol spatial, chaque passager produit plus de gaz à effet de serre qu'un passager d'un vol en avion. Mais c'est normal, il va plus loin, plus vite. Donc l'émission de gaz à effet de serre de chacun des quatre touristes spatiaux de l'Inspiration 4 est donc environ 100 fois plus élevée que celle d'un passager d'un avion Paris-New York.
Et donc, pour vous, la conquête spatiale, ça peut rimer avec faire attention, enfin prendre en jeu l'urgence climatique quand même.
L'espace est le premier contributeur à trouver la solution du changement climatique, puisque le GIEC, le groupe international d'études du climat, ou intergouvernemental. Intergouvernemental, donc le IPCC en anglais, donc définit le climat par 50 paramètres et plus de la moitié de ces paramètres ne reçoivent leur valeur qu'exclusivement de satellites.
Bah, j'entends ce que dit Monsieur Clairvoy, mais le problème, c'est que, enfin, nous là, on parle du tourisme spatial, et le but du tourisme spatial, c'est absolument pas d'avoir justement, enfin, ces images qui servent ensuite pour le GIEC ou autre. Donc, pour moi, enfin, juste quand on considère les conséquences écologiques de ce mode de transport, entre guillemets, si on peut appeler ça comme ça, c'est juste une aberration écologique et non, l'argument n'est pas recevable, je trouve.
Et ben moi, au contraire, je pense que le tourisme spatial peut contribuer à lutter contre le réchauffement climatique, puisqu'une grande partie du coût du billet est reversée pour la recherche dans le domaine spatial. Donc évidemment, un vol spatial, ça continuera à polluer, mais la recherche dans le domaine spatial permet de solutionner de nombreux problèmes sur le réchauffement climatique. Donc je pense que le tourisme spatial, à proprement parler, ne va résoudre aucun problème écologique, mais ça apporte de l'argent pour la recherche spatiale qui, elle, peut aider à développer de nouvelles technologies propres et durables qui pourraient être utilisées sur Terre pour réduire les émissions de gaz à effet de serre et ainsi améliorer l'efficacité énergétique.
Ouais, moi je trouve que, enfin, je suis pas hyper d'accord avec cet argument. Je trouve que c'est un peu du greenwashing, entre guillemets. Enfin, concrètement, un vol spatial, c'est responsable d'une forte émission de gaz à effet de serre qui sont même responsables en partie du réchauffement climatique, contre lequel sont censés justement lutter les compagnies quand elles reversent une part du billet en fait pour la recherche spatiale. Donc là, en gros, on pollue et ensuite on fait de la recherche pour moins polluer, mais en même temps on continue à polluer. Enfin, je veux dire, quand on prend l'exemple du Falcon 9, de SpaceX, j'en ai parlé tout à l'heure, c'est le lanceur spatial qui a été utilisé pour rejoindre l'ISS en 2020. Il a brûlé 300 000 litres de kérosène. À titre comparatif, c'est 5 fois un Francfort-New York en avion. Donc quand on sait déjà comment on dénonce un petit peu l'impact environnemental d'un trajet en avion, là, 5 fois supérieur, et sachant en plus que cet engin, il était entre guillemets léger, puisque les astronautes, ils sont restés à l'ISS, ils sont pas en fait revenus sur Terre. Donc ça veut dire que l'engin, il n'était pas prévu pour résister à un retour dans l'atmosphère terrestre. Donc on peut supposer qu'avec un engin qui doit faire l'aller-retour pour des touristes, ça consomme encore plus. Et là, en plus, on se limite à l'impact environnemental de la consommation du lanceur spatial. Mais il y a aussi en fait tout l'impact autour de sa fabrication qui lui-même n'est pas négligeable. Donc ouais, j'ai un peu du mal avec
ça. Oui, ça c'est sûr que la pollution émise par la conquête spatiale, par le tourisme spatial n'est pas négligeable. Mais après, j'aimerais quand même revenir là sur le fait qu'une grosse partie du billet est reversée dans des organisations spatiales. Bien sûr, c'est pour se donner bonne conscience, mais néanmoins, ça reste de l'argent qui est investi. Et donc, si on est pragmatique, ça permet, quoi qu'il arrive, ils trouveront un moyen, je pense, les milliardaires pour aller... dans l'espace, autant qu'ils reversent une partie de leur argent dans des organisations officielles pour pouvoir mieux les réinvestir.
Ouais, mais après, on peut se dire que la recherche qui est faite actuellement pour développer en fait des engins touristiques, l'argent énorme qui est mis dessus, on le met directement, tu vois, dans la recherche pour être plus durable. Et voilà. Mais après, je vois ce que tu veux dire. Au moins, on n'a pas je sais pas, les côtés négatifs et il y a un effort. Mais je trouve ça minime.
Après, je pense pas qu'ils développent à proprement parler, comme tu disais, des fusées pour les touristes spatiaux. Je pense que il y a aucune adaptation, il y a aucune recherche qui est faite pour le tourisme spatial. On reprend tout du tourisme, de la conquête spatiale classique. Après, j'aimerais quand même rajouter un point qu'on trouve dans les témoignages des touristes spatiaux, qui est que le tourisme spatial peut également contribuer à la sensibilisation du public aux enjeux climatiques. Donc ça, franchement, ça m'a étonné. Et en fait, ils expliquent qu'en étant dans l'espace, ils se rendent compte des mesures qu'il faut prendre pour protéger notre planète. Et donc, en apprenant davantage sur l'espace et en voyant les incroyables images de la Terre prises par les satellites et les astronautes et les touristes, nous pouvons être inspirés à prendre soin de notre planète et à trouver des moyens de préserver son environnement pour les générations à venir.
Pour moi, je suis désolée, mais ça, c'est pas un vrai argument. Parce que là, en fait, tu nous parles des astronautes. Donc des
astronautes et des touristes.
Ah oui, mais alors moi, quand j'avais cherché, ce que j'avais lu, c'est que les touristes, eux, ils restent au sein du vaisseau, ils sortent pas. Or, les hublés des vaisseaux, en fait, ils sont hyper épais. Donc, pour résister justement, en fait, au départ et au retour dans l'atmosphère terrestre. Donc, concrètement, on distingue pas grand-chose à travers. Donc, les bonnes images de résolution et autres, je suis pas sûre qu'on les a. Je crois que ce dont tu parles, c'est oui, ça concerne uniquement les astronautes qui ont une prise de conscience un petit peu quand ils voient la Terre du dessus. Rosalie, tu m'en avais parlé la dernière fois.
Oui, c'est ça. En fait, ça s'appelle l'overview effect. Et en fait, c'est vraiment quand ils sont, par exemple, sur la Lune et qu'ils voient la planète bleue, tout d'un coup, ils se rendent compte de la préciosité de la planète.
Ouais, mais là, il y a le côté, je pense, corrige-moi si je me trompe, mais c'est parce qu'ils la voient concrètement avec, entre guillemets, de leurs yeux, pas à travers un hublot où on distingue très mal les formes. Donc oui, je suis pas sûre qu'il y ait une grosse sensibilisation sur ça, d'autant que les images satellites et les incroyables images de la Terre, on les a tous, on va sur Google Maps ou Google Earth, on les voit, pourtant on a encore des gros problèmes. Donc pour moi, c'est un petit peu limite, d'autant que là, on n'a pas parlé d'un autre élément à prendre en compte. Il y a quand même les débris des fusées qui sont relargués. Quand on voit les efforts considérables que déploient certains labos de recherche pour trouver des solutions pour dépolluer les océans, et là, on est en train de faire le même, en fait, dans l'espace, quoi. Et ça pose des gros problèmes. Les morceaux des premiers étages, ils sont relargués, et sans compter les débris des accidents qui continuent à persister. Et là, Elon Musk, quand il a voulu faire Falcon 9, il a fait différents essais. Il y a eu 4 ou 5, je crois, essais ratés, quoi. Et tout ça, c'est des débris. Alors, certes, on peut dire que ces débris, ils restent pas dans l'espace, en fait. Concrètement, souvent, ils vont retomber et ils retombent à un endroit qui a été planifié à l'avance. Mais ça n'exclut pas qu'il y a des imprévus, que parfois la trajectoire des débris, elle est pas bonne et on les retrouve dans les océans. Donc ça peut polluer nos mers, nos terres. Et en plus, ça, quand il y a justement ces imprévus, c'est un risque pour nos bateaux ou pour notre population.
Mais pour revenir là avec le traitement des déchets, les agences spatiales ont un grand intérêt à récolter les déchets parce qu'ils en ont besoin pour apprendre des comportements. Donc la plupart du temps, on ne va jamais laisser un réservoir d'une fusée dans l'océan. On va toujours chercher à les récupérer. Après, bien sûr, il y aura forcément de la pollution, c'est impossible de tout récupérer, mais je pense que c'est relativement minime, parce que tu le disais justement, il y a eu 3 ou 4 fusées Falcon qui ont eu des accidents, c'est beaucoup, mais ouais. À l'échelle de toute la Terre, franchement, je pense qu'on peut faire des efforts sur d'autres points, et comment dire, se permettre encore de faire des excès juste dans un seul secteur, qui est l'espace.
Ouais, je suis pas hyper d'accord, mais je vois ce que tu veux dire. Enfin, pour toi, c'est pas un phénomène... c'est pas le phénomène le plus important, entre guillemets, mais après, il y a aussi encore un autre élément. Enfin, c'est que, par exemple, on dirait que le secteur, il est épargné totalement de la transition énergétique qu'on voit au niveau de l'automobile. Je veux dire, là, on parle très peu de fusées écologiques. Enfin, dès qu'on a une avancée, on crie à la joie. Mais justement, on l'a vu, la consommation, elle est hyper polluante. Donc, en fait, j'ai l'impression qu'on retombe dans le développement du secteur automobile qu'il y a eu il y a quelques décennies, avec un nouveau mode de transport qui est créé, donc c'est super, on veut la course au plus vite qui créera le plus, qui créera le mieux, et ensuite, on a un décalage un peu, un déphasage avec le moment où on se rend compte que ce mode de transport, il n'est pas viable, il n'est pas durable, et il faut le changer. Mais juste, pourquoi est-ce que là, en fait, on ne se pose pas pour essayer de développer, je ne sais pas moi, une fusée qui soit moins polluante, ou en tout cas, si, comme ce n'est pas fait, bah pour le moment, on repousse une transition en fait de ce mode spatial qui est très polluant. Et sauf que cette transition, elle arrivera trop tard, quoi.
Après, j'aimerais quand même revenir sur un point. C'est aujourd'hui, je ne sais pas exactement, mais je pense qu'il y a 3 ou 4 nations qui sont capables d'envoyer des fusées. Donc, en sachant que l'une des nations, c'est l'une des agences, c'est l'ESA. L'agence spatiale européenne, et donc qui regroupe une multitude d'États. Donc ça fait, grosso modo, 4 organisations. Donc on peut vraiment relativiser. C'est pas, je pense que si chaque État se mettait à faire des programmes spatiaux dans leur coin, là, on aurait vraiment des problèmes écologiques, parce que ça serait beaucoup trop. Et aussi, il faut bien penser que, comment dire, la conquête spatiale, c'est relativement récent.
Ouais, mais là, nous, on est focus sur le tourisme spatial. Ce que je voulais dire, c'est qu'au niveau du tourisme spatial, on l'a bien montré, c'est un secteur qui est en pleine expansion. Donc, si ça risque de se développer, et si ça se développe, eh ben, pour moi, c'est problématique écologiquement.
Et, ok.
Bah, après, je pense qu'on ne sera pas forcément d'accord sur le sujet, mais c'était intéressant de débattre de ça.
Ok, du coup, pour conclure sur la question économique et écologique, on a maintenant demandé leurs avis à des gens dans la rue.
Bah, pour moi, oui, ça doit coûter une fortune et ça sera réservé que aux plus riches de ce monde. Pour moi, il faudrait réinvestir dans autre chose, parce que même quand on envoie des satellites, etc., ils restent tout le temps dans l'espace. Donc on est en train de polluer aussi l'espace. Donc envoyer des fusées, ça serait aussi polluer, parce que la fusée, quand elle décolle, elle se sépare. Donc ça va rester dans l'espace, qui va encore plus polluer, encore en plus d'utiliser des énergies fossiles, des énergies non renouvelables. Donc ça pollue extrêmement.
Oui, il y a d'autres choses à faire plus urgentes que le tourisme spatial. Nous sorine avec l'écologie, les économies d'énergie, et on dépense des milliards et des milliards, voilà.
Je pense qu'on peut, ouais, on peut être mécène, mais dans d'autres sujets, quoi. À partir du moment où on fait un lancement de fusée, ça consomme combien, une Ariane 5 ?
Énormément, beaucoup.
Hein, pas mal, hein, en termes d'énergie. Et puis, c'est pas de l'énergie propre. Hein.
Ouais, voilà. C'est vrai.
Voilà, donc... non, moi, je suis pas contre. S'il y a des fous, il faut les laisser, les fous. Hein. Je veux pas atteindre la liberté personnelle, mais c'est de la bêtise. Quoi.
Voilà, on a eu pas mal d'avis controversés, toujours, sur ce sujet. Et on arrive maintenant à une rubrique présentée par Alice et Rosalie, intitulée « On vous le conseille vivement ».
Rebonjour à tous. Du coup, là, on va partir d'une rubrique un petit peu culturelle. Du coup, on se retrouve maintenant et on a fait quelques recherches, du coup, sur le thème du tourisme spatial en particulier dans les médias.
Et donc là, en fait, on est tombé sur la chronique de Thomas VDB sur France Inter, intitulée « Tourisme spatial et pain surprise ». Et du coup, on vous la conseille vivement. Et donc, premièrement, parce que nous, on adore ce chroniqueur. Et ensuite, parce qu'on y apprend plein de choses tout en rigolant.
Et c'est très vrai. Par exemple, il raconte avec beaucoup d'humour, comme à son habitude, hein, comment Jeff Bezos a voulu créer un gros coup de pub en envoyant au bord du New Shepard son véhicule spatial, du coup, William Shatner. Vous vous en rappelez peut-être de lui, surtout si vous êtes un fan de science-fiction.
Et oui, parce qu'en fait, c'est l'acteur qui jouait le Captain Kirk dans Star Trek, qu'on vous conseille aussi, bien évidemment. Sauf que, petit fait insolite, il s'agit de l'homme le plus âgé à avoir voyagé dans l'espace, parce qu'il a 91 ans. Malheureusement, le coup de pub n'a pas aussi bien marché qu'il l'aurait souhaité, puisque William est revenu traumatisé par l'expérience, évoquant l'infinité de l'espace comme un aperçu de la mort.
Et oui, et il a également été frappé par ce qu'on appelle du coup l'overview effect, qu'on a parlé tout à l'heure.
Oui, c'est ça, on en a parlé dans la rubrique écologique, si vous vous en souvenez. Et du coup, on a décidé de vous mettre un petit extrait de Thomas VDB qui analyse très bien la situation.
Et donc, William Shatner, il explique qu'en voyant le noir total du cosmos, il a été gagné par une tristesse totale. Parce que c'est vrai que le noir infini de l'espace, bon, ben, même Pierre Soulages avec son outre-noir, il peut aller se rhabiller. Quoi. Et donc, Shatner, il dit « J'ai pris conscience de la fragilité absolue de la Terre. » De combien il faut en prendre soin, de combien il faut arrêter toute la pollution. Il dit ça à Jeff Bezos. T'imagines qu'il lui demande c'est quoi ton métier, toi. Jeff Bezos dit bah, moi, les gens, je leur vends des trucs dont ils n'ont pas besoin et si ça ne se vend pas, je les brûle. Ok.
Donc en fait, on ne sait pas trop ce que vous en pensez, mais on a quand même trouvé ça assez cocasse que cet acteur, que l'on pourrait imaginer comme un emblème du tourisme spatial, soit celui qui fasse l'apologie de l'écologie à Jeff Bezos, multimilliardaire dont les entreprises produisent plus de 211 millions de kilos de déchets par an.
Mais finalement, est-ce qu'il n'y a pas d'autres acteurs du monde du cinéma qui ont eux aussi critiqué cette vision un peu idéalisée du tourisme spatial ? Et c'est cette question qui nous a ensuite guidés dans nos recherches et qui nous amène à vous présenter une deuxième œuvre culturelle de cette rubrique. Donc on va vous passer un petit extrait du générique et vous allez nous dire si vous avez reconnu.
Alors moi, ça me dit rien du tout.
Si, c'est Wallace et Gromit.
Oui, exactement.
Du coup, voilà, ce sont les personnages emblématiques de Nick Park, pour ceux qui ne les connaissent pas. Donc Nick Park, c'est un réalisateur qui utilise une technique de réalisation très particulière, puisqu'elle est à base de pâte à modeler.
Mais non.
Ah, ok, si,
incroyable.
Je vois, donc c'est les petits bonhommes en pâte à modeler, ça.
Oui, c'est ça, exactement.
Ok.
Et du coup, l'épisode qui nous intéresse, du coup, qui est intitulé « Une grande excursion », est en fait le premier d'une longue série. Cet épisode a d'ailleurs été nommé pour l'Oscar du meilleur court-métrage d'animation en 1991.
Et du coup, on s'est dit qu'on allait peut-être commencer par vous présenter un peu plus en détail les personnages. Donc on a d'abord Wallace, qui est un inventeur génial, qui est amateur de crackers et de fromage. Et bien sûr, Gromit, son chien intelligent. Et donc maintenant, Alice, je te propose de faire le résumé.
Bah écoute, pas de soucis, parce que comme vous le savez, moi j'adore ce court-métrage. Et je vous le conseille vivement. Du coup, au début de l'épisode, on a Wallace qui décide de partir en vacances. Et il hésite sur la destination. Et il décide du coup de prendre un petit encas pour grignoter et il se rend compte qu'il n'a plus de fromage.
Le drame.
Exactement. Il décide donc de partir en vacances sur la Lune puisque tout le monde le sait, la Lune est un fromage.
Bien évidemment.
Une fois arrivé à destination, il commence à déguster du fromage sur des crackers en se baladant, laissant bien sûr au passage de nombreux déchets. On a donc une nappe, des couverts et de la vaisselle qui sont laissés partout sur le sol.
Oui, si je me souviens bien, il abîme aussi des stalagmites lunaires et le sol avec une fuite d'huile qui est causée par l'atterrissage de sa fusée.
Oui, et cela va particulièrement énerver un robot qui habite là. Donc lorsqu'il constate les dégâts, le robot se met à chercher furieusement les coupables. Voilà, ces Gromit qui sont alors choqués par la violence du robot décident de repartir très vite dans leur fusée en direction de la Terre. Le robot ne parvient malheureusement jamais à les rattraper.
En d'autres mots, ils repartent en toute impunité.
Exactement. C'est pour ça qu'on peut se demander si finalement cette histoire n'est pas plus profonde qu'elle en a l'air.
C'est vrai qu'au premier abord, en fait, cette histoire, elle semble assez insouciante avec une fin heureuse.
Un peu le classique « tout va bien qui finit bien », quoi.
Oui, c'est ça. Mais en fait, Nick Park, il aborde des sujets assez sérieux. Par exemple, est-ce que Wallace avait besoin d'aller si loin quand il aurait pu se rendre, comme il le dit si bien au début du court-métrage, en Suisse, en France ou à Philadelphie pour trouver du fromage ?
Ça, c'est une très bonne question.
Voilà. Donc, si vous avez eu la chance et le temps d'écouter notre précédente émission, on a déjà parlé de changer nos habitudes pour partir en vacances plus proche de chez nous avec des moyens de transport moins polluants pour diminuer notre impact écologique.
Et c'est vrai que la fusée comme ça, c'est pas le moyen de transport le plus vert. Hein.
Bah, c'est le moins qu'on puisse dire, comme on a déjà parlé tout à l'heure. Et on peut aussi noter un autre parallèle qu'on a fait avec notre modèle de société actuelle. Par exemple, quand Wallace et Gromit quittent la Lune, ils ne nettoient rien alors qu'ils ont abîmé l'habitat de quelqu'un d'autre. Donc ils s'enfuient ensuite sans assumer les conséquences de leurs actes.
Alors je sais pas vous, mais moi ça me rappelle vaguement quelque chose toute cette histoire.
Hein. Ouais, bah c'est ça. Par exemple, ça peut te faire penser à notre modèle économique linéaire et à nos habitudes de surconsommation. C'est-à-dire qu'on va acheter, ensuite on jette et on en veut toujours plus.
Ouais, exactement. Après, je pense aussi aux constats écologiques actuels qui sont terribles.
Bah oui, effectivement, on a déjà abîmé notre planète et nos écosystèmes, alors que certains nient encore le réchauffement climatique, d'autres, sous couvert d'optimisme, cherchent à coloniser l'espace. Mais ne devrions-nous pas d'abord réparer nos erreurs et chercher des solutions pour ralentir le réchauffement climatique, plutôt que de chercher une nouvelle planète à coloniser pour ensuite reproduire exactement le même schéma de société ?
Alors je suis entièrement d'accord avec toi, Rosalie. Pour moi, c'est totalement ironique et c'est vraiment une preuve de la lâcheté de notre part, quoi. L'humain est clairement lâche et au lieu de s'occuper à ces problèmes qu'il a causés sur Terre, il va en créer d'autres ailleurs.
Voilà, alors bien sûr, ça reste notre interprétation. Libre à vous de vous faire votre propre avis.
très intéressante l'interprétation.
Et surtout qu'il y a d'autres œuvres qui sont culturelles et en faveur du tourisme spatial et en dépeignent une vision positive.
Du coup, c'est par exemple le cas du roman de science-fiction « L'hôtel de la mer des pluies » publié très récemment par Jiwoo.
Et ce qui est vraiment intéressant avec cette œuvre est qu'en fait, elle a été écrite par un chercheur et ingénieur de renommée mondiale à qui la Chine doit notamment le lancement de son premier satellite scientifique. Et du coup, en fait, il connaît vraiment très bien son sujet et il décrit l'espace et les machines de manière très, très réaliste.
Ouais, c'est un récit de voyage léger qui se lit facilement, qui est agrémenté d'illustrations. Donc c'est super, ça permet vraiment de voir un peu de quoi on parle. Et en bonus, pour les fans de Saint-Exupéry, il fait également beaucoup de références au Petit Prince. Donc vous allez vous régaler.
Voilà, donc en fait, on vous le conseille donc vivement pour avoir différents points de vue sur la question.
Et évidemment, on ne peut pas terminer cette rubrique sans parler du nouveau roman de notre invité du jour, donc Jean-François Clairvoy, intitulé « Entretien avec un astronaute », dans lequel il répond à 100 questions sur la Terre, l'espace et notre avenir. On va donc vous laisser le présenter lui-même.
Et puis, si ça vous intéresse de retrouver un peu toutes ces discussions dans un livre, voici un livre composé de plus d'une centaine de questions qu'on m'a posées et je réponds sur une ou deux pages à chacune de ces questions sur mon vécu d'astronaute, sur le vol habité, l'exploration spatiale en général, passé, présent, futur, et puis sur des questions contemporaines, des sujets d'actualité de notre vie sur Terre, sur l'enseignement, sur le climat, sur le digital, et puis même à la fin sur le sens de l'univers. Mais bon, ça, c'est juste mes idées un peu personnelles. Voilà. Et tous les droits sont reversés à une association de protection de l'océan. Et nous sommes quelques astronautes à parrainer. Voilà.
Bah, merci beaucoup, Monsieur Clairvoy, pour avoir participé à notre émission, même si on a eu une interview avec lui précédemment. C'était très enrichissant de pouvoir discuter avec lui et on espère que cela vous a donné envie d'acheter son livre.
Moi, en tout cas, je vais l'acheter.
Merci, Florian. Et du coup, c'était la fin de notre chronique. Alice, tu peux peut-être conclure pour nous avant d'enchaîner avec la musique.
Bien sûr, on a bien vu donc que cette question du tourisme spatial ne date pas d'aujourd'hui. Même si elle s'inscrit pleinement dans l'actualité, elle nous a fait tous réfléchir et réagir. Et du coup, notamment grâce à la culture qui est un biais, que ce soit à travers de l'écriture, du dessin d'animation ou encore la radio. Donc c'est un sujet sur lequel il reste encore beaucoup de choses à éclaircir et pour que cela ne reste pas juste une utopie ou alors que l'idée soit entièrement abandonnée.
Et ça, seule l'histoire le dira.
Yes, bah merci à tous pour être venus du coup et c'était merci à Jean-François Clairvoy et on peut lancer la musique. I know you're somewhere out there, somewhere far away. I want you back, I want you back. My neighbors think I'm crazy, but they don't understand. You're all I had, you're all I had. At night when the stars light,
myself talking to the moon, trying to get to you. Famous, the talk of the town. They say I've gone mad, yeah, I've gone mad. But they don't know what I know, 'cause when the sun goes down, someone's talking back. Yeah, they're talking back. Talking to the moon, trying to get to you, in hopes you're on the other side, talking to me too. Somewhere out there.